Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau rendez-vous de Wagon Livre ce soir sur Radion. Je vous propose en effet un entretien réalisé le 23 juillet dernier à la maison Jules Roy de Vézelay. Vous allez ce soir pouvoir entendre l'écrivain et documentariste Xavier Bazot. Xavier Bazot a fait paraître il y a maintenant 2 ans Camp Volant aux éditions Champvallon. Il s'agit d'un livre sur les populations nomades, les gens du cirque, et c'est aussi la rencontre avec un passionné de l'écriture, puisque Xavier Bazot est un écrivain professionnel.
Vous nous emmenez déjà, les chemins de vos pèlerinages en tant qu'écrivain souvent en résidence. Alors, on va peut-être un peu vous présenter aux auditeurs de Wagon Livre. Vous êtes né en 1955 à Bourges. Vous êtes fils de pâtissier,
oui.
Donc né dans la gourmandise.
Oui.
Vous êtes maintenant plutôt dans la gourmandise textuelle, des mots, de la langue. Vous avez obtenu en 1991 le prix de la ville de Saint-Quentin à l'occasion du festival de la Nouvelle. Et finalement, en lisant les différents éléments biographiques que j'ai pu trouver grâce à cet outil informatique extraordinaire quelque part qu'est l'Internet, j'ai l'impression que vous êtes passé par différentes phases, par un parcours, non pas chaotique, elle ne me permettrait pas de dire ça, mais un parcours en tout cas original et qui nous déroute un peu. Et je tords de dire cela, Xavier Bazot, vous souriez.
Oui, dans la mesure où qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des études de lettres, ce qui ne sert absolument à rien à un écrivain, puisque écrire, c'est avant tout, tout écrivain est un autodidacte. On n'apprend pas à l'université à écrire, on apprend éventuellement à enseigner, et écrire, ça ne s'apprend pas. C'est pour ça, entre parenthèses, que je ne pratique jamais d'atelier d'écriture. Et puis après, quand il a fallu que je travaille, je me suis souvenu du conseil de Rainer Maria Rilke dans ses lettres à un jeune écrivain, à un jeune poète, qui dit « Si vous devez travailler, prenez un métier qui soit le plus possible loin de la littérature. Ne soyez pas professeur, ne soyez pas journaliste. » Prenez un métier manuel, il est préférable d'être menuisier. Et alors, à ce moment-là, bon, j'étais attiré sans doute aussi par les personnes que je pensais y trouver. J'ai travaillé essentiellement avec Emmaüs pendant sur une durée de 5 ans, à différents postes, comme adjoint de responsable dans des communautés, puis comme responsable d'un centre d'hébergement. Et puis peu à peu, bien sûr, je me suis trouvé confronté à un moment où il fallait choisir entre une carrière à Emmaüs et puis écrire. Mais comme j'avais cette idée-là qui était très lointaine, qui remontait à l'enfance et qui était plus forte, bien sûr, à ce moment-là, j'ai quitté Emmaüs et j'ai quitté en même temps toute idée d'une profession au sens classique, où on l'entend. Et entre 20 et 30 ans, enfin depuis une trentaine d'années presque, depuis 25 ans, je me consacre à l'écriture. Est-ce que l'artiste, en général, est artiste parce qu'il a du mal à se situer dans la société? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une lecture de l'artiste comme de quelqu'un qui fait le pari social de sauter plusieurs classes sociales à la fois. Si par exemple il arrive à un artiste d'avoir un grand succès, il peut devenir riche par exemple, ou être très rapidement, ou bénéficier d'un statut social, d'une reconnaissance sociale qu'il n'aurait pas acquis par les voies normales. Ça peut être une lecture. Et en ce sens-là, choisir d'être écrivain est peut-être un mauvais pari. Il vaudrait mieux être aujourd'hui cinéaste. Et d'ailleurs, peut-être que certains jeunes cinéastes, il y a 50 ans, 60 ans, seraient devenus plutôt de jeunes écrivains. Enfin, bien sûr, on sait aujourd'hui que le statut d'écrivain n'a plus du tout l'aura qu'il a eu, disons, jusqu'à Albert Camus à peu près, enfin c'était un des derniers à bénéficier de cette aura. Bien, ça c'est une lecture. Maintenant que la langue, que l'écriture soit malmenée, que les jeunes lisent moins ou pas du tout, que le travail sur la langue tel que je le pratique soit devienne assez problématique dans un contexte de SMS ou de blog. Bon, là, je sais pas. Bon, c'est ainsi. Je sais pas. Je suis pas forcément pessimiste.
Écrivain en résidence. Je souhaiterais à la fois pour moi-même et aussi pour les personnes qui nous écoutent que vous proposiez une définition de ce qu'est un écrivain en résidence. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela signifie?
Alors nous avons de multiples formes de résidence. Ce qui serait commun à toutes les résidences, c'est le fait pour un écrivain d'aller vivre à l'invitation d'une structure accueillante, d'aller vivre dans un lieu qui n'est pas le sien. Par exemple, moi j'habite Paris, je viens un mois vivre à Vézelay, ou je vais un mois vivre à Marseille ou dans la campagne, voire dans un pays étranger, parce que le ministère des Affaires étrangères envoie des écrivains à l'étranger dans le cadre des missions Stendhal, par exemple. Alors, le principe de la résidence, ça serait le dépaysement. Que le dépaysement permette à l'écrivain de découvrir d'autres paysages, d'autres personnes, d'autres réalités qui puissent nourrir et enrichir son écriture. Ensuite, les résidences, il y en a de multiples, et il y a des résidences qui ne sont pas accompagnés de bourses, il y en a qui sont accompagnés de bourses, des résidences où l'on demande à l'écrivain un travail auprès du public, en parallèle de son travail d'écriture, des résidences où on ne demande à l'écrivain que de continuer son travail d'écriture. Là, nous avons toutes les sortes, c'est très riche. C'est très riche. Et c'est vrai que... alors, je reviens aussi sur ce petit problème. Souvent, les résidences... souvent, la société a un peu une vision de l'artiste, de la vocation artistique, une vision religieuse, ne serait-ce que le terme de vocation. Et parfois, les résidences... parfois, les résidences demandent à l'artiste d'être seul, sans sa famille, selon la phrase un peu la phrase un artiste n'a pas de famille. Et parfois je me suis trouvé dans des résidences avec un lit de 90 cm par exemple. C'est très parlant. Oui, c'est très parlant. L'écrivain est seul. Alors j'ai donc une famille, j'ai donc deux filles, et lorsqu'elles étaient petites, nous avons été avec leur maman 5 mois à Saint-Claude par exemple ensemble. Alors bien sûr, quand elles ont été en âge scolaire, j'ai été plus obligé de rester à Paris pour m'occuper d'elles. Maintenant qu'elles ont 12 et 13 ans, elles sont contentes quand je libère un peu l'espace et pour qu'elles aient un peu d'air. Et donc je reprends un peu ce mode de vie des résidences et qui est de fait un mode de vie nomade.
Alors justement, vous apportez là de l'eau à mon moulin radiophonique, parce que le mot nomade, c'est aussi un terme qui est au cœur de vos écrits. Alors, à la fois parce que vous avez côtoyé des populations nomades, vous vous êtes intéressé aussi à l'histoire des Tsiganes, à l'enfermement des Tsiganes dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis vous avez côtoyé les démunis, les déshérités de la vie, vous avez en fait une certaine prédilection pour les hommes et les femmes qui ont été marginalisés ou qui ont choisi de se marginaliser.
J'ai pas encore fait le tour de ce qui est commun aux populations qui m'attirent, comme les populations tsiganes, ça c'est certain, depuis que je suis enfant, des populations que je pensais trouver à Emmaüs, parce que la réalité de ce que j'ai trouvé à Emmaüs était différente de mon fantasme de départ, mais ce sont des personnes, soit dans les cirques, soit les familles manouches, soit les personnes qui passent à Emmaüs, sont des personnes qui ont en commun un certain nomadisme,
qui ont subi ou choisi.
Mais qui est quand même choisi, à mon avis, un peu, qui est tout de même choisi, qui ont aussi une... Parce que je réfléchissais à ça, mais le nomadisme, souvent, se pratique de manière collective aussi. Et alors, le collectif, c'est lié à mon enfance quand même, ou dans la pâtisserie de mes parents. C'était encore comme ça à l'époque, la vie professionnelle et la vie familiale étaient mêlées. Il n'y avait pas d'appartement privé, l'appartement privé était... dans l'appartement privé, il y avait des pièces à usage commercial, ce qui fait que le personnel traversait notre vie privée, c'était mélangé. Et ça, j'ai beaucoup aimé, enfin. Alors à Emmaüs, c'est une vie en communauté aussi. Quand on fréquente un cirque, on vit en communauté. Quand on fréquente des familles manouches, c'est une vie en communauté aussi. Alors ça, c'est peut-être un terrain d'enfance que je poursuis. Le nomadisme, finalement, dans ma vie pratique, je suis pas si nomade que ça, hein, parce que je vis avec ma famille. C'est un rapport aussi à la maison, à la propriété. Ça, par exemple, je vis avec ma famille, mais l'appartement que nous louons, c'est au nom de ma compagne. Enfin, je me suis jamais confronté ni à la possession d'une maison, ni à la location d'une maison. Enfin, je suis toujours un petit peu en retrait par rapport à ce système. Alors chez Bachelard ou chez Thoreau, il y a de belles réflexions sur ça. Et j'avais d'ailleurs eu l'occasion d'écrire un texte qui s'appelle « Où habiter, où écrire » sur à propos des résidences et à propos de cette de choisir la maison d'élection dont parle Bachelard, c'est-à-dire que pour choisir une maison ou pour choisir une épouse, vous êtes obligé de renoncer aux autres maisons ou aux autres épouses. Donc ça passe par le principe de castration. Et je pense que et il faut bien sûr accepter le principe de castration si vous voulez construire quelque chose. Les personnes que j'ai pu croiser à Emmaüs, ce sont des personnes au départ qui ont refusé le principe de castration. Ne pas s'engager dans une famille, ne pas s'engager dans un travail, rester toujours ouvert à toutes les possibilités. Ce qui est une situation que l'on connaît, qui est idéale, mais que l'on connaît lorsqu'on a 20 ans. Que l'on n'est pas engagé encore ni dans un travail, ni dans un crédit, ni avec une épouse ou un époux, parce que ça peut bien sûr fonctionner. Et alors, le problème, c'est qu'avec l'âge, si vous continuez comme ça, sans rien construire, en refusant ce principe de castration, et que vous avez 40 ans ou 50 ans, vous risquez un jour de vous retrouver très malheureux et un peu dans un cul-de-sac, parce que vous ne retrouvez pas de travail, parce que vous n'êtes plus aussi peut-être attirant et personne ne veut venir avec vous. Bref, voilà. Donc il faut un jour ou l'autre se mettre à construire et accepter ce principe de castration.
De votre existence, Xavier Bazot. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces deux saisons passées aux côtés d'un cirque ?
Oui, alors j'étais toujours, quand j'étais enfant, j'étais toujours très fasciné par les cirques qui passaient et par les familles manouches qui passaient aussi. J'en parle dans la Frésie pour dimanche d'ailleurs. Je pense que ce qui me fascinait beaucoup chez les manouches, c'était que quand ils avaient lorsque j'avais 13 ans, c'est que je voyais ces enfants manouches qui avaient 13 ans ou 14 ans et qui avaient déjà une vie sexuelle. Qui avaient déjà, parce que chez les manouches, bah, quand on a une sexualité qui est prête à fonctionner, on se marie. Moi, je sais que c'est le thème du fraisier, c'est un thème important du fraisier. Moi, j'étais vraiment coincé dans une petite ville de province qui est Bourges, avec une sexualité qui était existante et qui ne trouvait absolument pas à s'exprimer. Et je pense que ce qui a pu peut-être aussi un des facteurs qui m'attirait vers le mode de vie des manouches, c'était ça, qui était beaucoup plus en phase avec la nature, finalement.
Dépasser un tabou, un interdit sexuel qu'imposait la famille.
Qu'imposait pas plus largement.
Ou la société de province.
La société.
Quand on parlait des manouches, Ça me rappelle une scène du Grand Monde où à un moment un cirque arrive dans le village.
Ah, bien
et
sûr.
Il y a des gitans et des manouches. Ça me revient tout d'un coup.
Oui, et puis en plus, bien sûr, c'est ma région en plus, c'est la région de la Sologne, de Bourges. Et alors, ce qui m'a semblé, là, je travaille actuellement autour. Nous faisons un travail autour d'une carrière vers Issoudun. Et dans la région de Issoudun, les gens appellent les manouches les comédiens. Et dans le Grand Moulne, ce sont des comédiens qui passent. Et je me dis, il faut absolument que je relise le Grand Moulne, parce que ces comédiens, est-ce que ce sont des comédiens puisqu'ils participent à la fête de Yvonne de Galais, et le frère de Yvonne de Galais, Franz, les a rejoints. Mais est-ce que ce sont des manouches? Ce sont peut-être des manouches. Il faudrait que je relise. Et qui sont dénommés parce qu'il n'était pas loin d'Issoudun. Enfin, il était le père de Alain Fournier était instituteur plus bas dans l'Indre, hein, je crois. Et ce sont peut-être des manouches. Alors, bien sûr, le Grand Moulne, il y a des choses qui sont en dessous, comme ça. Il y a une homosexualité, à mon avis, chez Franz, qui est sous-jacente. Il y a aussi le fantasme, bien sûr, que l'homme, lorsque la femme accouche, elle meurt, et que c'est l'homme qui emporte l'enfant. Ça aussi, c'est un fantasme qui est très masculin, finalement. Alors, il y a des tas de choses qui sont un petit peu pas dites dans le Grand Moulne, qui en font un roman curieux.
Alors, votre premier roman date de 1990, il paraît aux éditions POL, et il a pour titre « Tableau de la passion ». Est-ce qu'il vous est possible de nous parler un peu de ce premier roman? Vous grimacez.
Alors, j'ai toujours beaucoup de difficultés à résumer mes livres. Bien sûr, je peux dire, voilà, tel livre, ça parle de ça, mais souvent le sujet, pour moi, n'est qu'un prétexte au travail sur la langue. Alors, le prétexte du travail sur la langue dans Tableau de la passion, c'est une histoire d'une passion, mais c'est un P avec un P majuscule, c'est passion avec un P majuscule parce que c'est une référence à la passion du Christ, que connaît l'héroïne qui s'appelle Maria Candelaria. Et c'est une passion, l'histoire d'une passion. Il fait corps un peu avec Stabat Mater que j'écris 10 ans après. À tel point que la dernière phrase de Stabat Mater ne peut se comprendre que si nous avons lu Tableau de la Passion avant. Et ils tournent tous les deux autour du thème de la paternité.
Vous êtes un père, vous êtes le père de vos livres, vous êtes le père de deux filles, vous en parlez, vous en avez parlé d'ailleurs très rapidement au tout début de cet entretien.
Oui.
La paternité.
Alors la paternité, c'est aussi. Moi j'ai eu beaucoup de mal à m'engager dans une famille. Pour les raisons que nous avons évoquées antérieurement, pour les raisons aussi, je reviens à cette petite phrase que j'ai citée, que la société distille comme ça, un artiste n'a pas de famille. Je pense que l'artiste, il se fait toujours avoir par la société, n'importe comment. Et à un moment donné, je me suis dit, mais la société, lorsqu'elle dit un artiste n'a pas de famille, beaucoup d'artistes se sont empêchés d'avoir une famille. Nous revenons à un peu cette idée de la vocation presque religieuse de l'artiste. On demande à l'artiste d'être pas un prêtre, mais quelque chose, enfin, d'avoir un peu une vie comme ça, de s'intéresser, d'avoir des enfants, etc. Je me suis demandé si l'artiste ne se faisait pas avoir. De même que je suis absolument persuadé que finalement, quand un artiste est reconnu, la reconnaissance de l'artiste, c'est que la société en a besoin. A besoin, tant que la société n'a pas besoin de l'artiste, si l'artiste est trop en avance de la société, la société n'a pas besoin, elle ne voit pas comment elle peut s'en servir. À partir du moment où la société voit comment elle peut utiliser l'artiste, à ce moment-là, elle le reconnaît. Et à ce moment-là, il peut arriver à une... Mais c'est toujours un marché de dupes. Et je crois que, y compris dans la vocation, dans la naissance de la vocation, parce que l'artiste, à 90%, se réserve une vie matérielle qui est quand même très aléatoire, je pense que celui qui connaît une vocation artistique se fait avoir de bout en bout par la société. Mais c'est pas grave. Disons, vous voyez, j'ai pas du tout une vision de l'artiste en dehors de la société. J'ai vraiment, c'est un fruit de la société.
Journée de la lavagne.
Il y a en 1995, donc Chronique du cirque dans le désert, donc il s'agit de 29 courts récits parus aux éditions du Serpent à Plumes. Alors là, c'est une.
Alors,
présenter ce livre ? Alors, est-il plus simple à présenter ?
Ce sont des récits qui avaient été écrits avant mon premier roman, Tableau de la Passion. À l'époque, il était difficile d'éditer un recueil de nouvelles. Et les éditeurs me le renvoyaient en disant « oui, mais ce sont des nouvelles bon. ». Et à partir du moment où j'ai présenté, parce que ça c'est, au début j'avais des choses à raconter, mais quand au bout de 3 ou 4 pages, ben, c'était fini, je m'arrêtais. Et puis peu à peu sont venus sous ma plume des récits plus longs, dont l'un d'ailleurs a donné Un fraisier pour dimanche, et dont l'autre s'est retrouvé 15 ans après dans Au bord. Vous voyez, c'est pas la chronologie de l'écriture ne correspond pas forcément à la chronologie de la publication. Et puis Le Serpent à Plumes était une jeune maison qui est née à cette époque-là et qui m'a pris les nouvelles après la publication du premier roman chez POL. Alors ce sont j'ai commencé par ça, ce sont des récits que j'ai écrits entre 20 et 30 ans, qui étaient au départ écrits au passé, et que j'ai découvert le temps du présent en écrivant Un fraisier pour dimanche, et après j'ai repris ce recueil de courts récits au présent, et pour sa reprise en poche, il est paru dans une version au présent, au Serpent toujours.
En 96, donc, Un fraisier pour dimanche, alors là éclate donc la gourmandise des mots, bon, en tout cas vous persévérez dans la gourmandise des mots, et vous faites la chronique en fait d'une pâtisserie où fourmis ou défilent différentes personnes. C'est à la fois un enchevêtrement de souvenirs personnels et de portraits de clients, de clients qui passent dans
le
commerce.
Alors, j'avais, après ces nouvelles, j'avais été venu un texte d'une cinquantaine de pages sur la pâtisserie de mes parents. 50 pages, c'est pas tellement publiable. Ces 50 pages étaient devenues une dramatique sur France Culture au départ. Et puis quelques années après, je me suis dit, mais je parle de la pâtisserie, mais je parle pas de ce qui était le plus important pour moi, c'est-à-dire ma sexualité adolescente. Alors j'ai repris le livre en parlant de cette non-sexualité adolescente, justement. Il se passe rien dans le fraisier, justement, parce que le héros est en attente d'eux et ça n'arrive pas. Donc nous n'avons à ce moment-là, il n'y a pas d'intrigue véritablement, et nous quittons ce que j'appelle une structure verticale que nous avons dans Tableau de la Passion, où là, il y a vraiment une histoire avec une intrigue, avec un dénouement, un coup de théâtre à la fin qui est ce que j'appelle un point focal. Nous quittons une structure historique pour arriver à une structure que j'appelle géographique, ou historique verticale et géographique horizontale. C'est-à-dire, c'est plutôt une structure comme on en trouve dans des nouvelles de Pavézé, où il ne se passe rien chez Pavézé, il n'y a pas d'intrigue, il y a seulement une atmosphère.
Donc en 1999... Les éditions du Serpent à Plumes font paraître Stabat Mater, vous nous en avez parlé. Je voudrais que vous nous parliez de votre livre Au bord, en 2002. Alors, Au bord, c'est un recueil de 3 récits, 3 nouvelles également.
Oui.
Alors, est-ce qu'il est difficile à présenter ?
Je me suis inspiré un peu de mon expérience à Emmaüs, quoique, bien sûr, je ne nomme jamais Emmaüs dans le texte. Il est toujours autobiographique dans la mesure où j'emploie toujours un jeu, J-E, qui dans la complexité de la phrase d'ailleurs permet, quand vous commencez une phrase avec un jeu, vous pouvez introduire un il dans la même phrase. Et à ce moment-là, on ne confond pas les sujets. Si vous commencez avec un il, vous êtes obligé de clore la phrase si vous voulez employer un autre il qui ne soit pas le même sujet. Déjà, ça, le jeu permet cette richesse grammaticale, cette richesse de syntaxe. C'est toujours un livre autobiographique dans la mesure où il y a toujours un jeu narrateur, mais il est peut-être plus ouvert sur un monde extérieur, parce que simplement j'avais pas de matériaux autobiographiques à exploiter à ce moment-là. Lorsque j'en aurai à nouveau, je pourrais écrire un livre à nouveau plus autobiographique. N'importe comment, le matériau autobiographique, je fais un travail romanesque à partir du matériau autobiographique. Je respecte le pacte romanesque. Si vous voulez, si vous prenez Victor Hugo ou Balzac, ce sont des gens qui vont inventer une situation et des personnages. Ils vont faire un travail romanesque qui va faire que le lecteur, quand il va lire Les Misérables, il va croire que Jean Valjean, Cosette ont existé vraiment dans la réalité. Moi, je fais le travail inverse. C'est-à-dire, je respecte pareil le pacte romanesque, mais je le fais à l'envers, à partir d'un matériau autobiographique qui a existé. J'écris un roman de telle manière, le travail romanesque fait que lorsque vous avez le livre en main, vous dites ce livre, ce que l'auteur raconte n'a pas pu exister, il l'a inventé. Et si on ne pouvait pas dire ça, ça serait un travail raté. C'est pas, je n'écris pas mes souvenirs, j'écris de la littérature. Mais finalement, je respecte le pacte romanesque quand même.
Alors je souhaiterais maintenant qu'on s'arrête sur votre dernier roman, paru donc en 2008 aux éditions Champvallon, et qui a été rédigé à la suite d'une résidence d'écrivain dans le Val-de-Marne. C'est
voilà.
Cela, et qui a pour titre « Camp volant » au pluriel. Voilà. Alors « Camp volant », c'est quand même un ensemble de souvenirs, c'est une galerie de portraits.
C'est un peu ça pourrait être... Alors c'est pareil, là, dans « Camp volant », il n'y a pas d'intrigue. Nous sommes sur une structure géographique. D'autant géographique que cela parle de manière d'habiter non sédentaire, que ça soit des familles manouches encore en banlieue parisienne, ça se passe. Bon, c'était une bourse du Conseil général du Val-de-Marne, donc je me suis un peu baladé dans le Val-de-Marne. Et, ça parle de cirque, ça parle de Hans Walter Müller, qui est un architecte qui a inventé. Une sphère gonflable pour habiter. Ça parle de différentes manières d'habiter qui ne soient pas sédentaires. Ça peut être, on pourrait le voir comme une sorte de roman picaresque qui passe de différents milieux, de différents modes d'habiter, parce que le narrateur quitte toujours, est en train de quitter toujours. Ça s'est construit, quand volant s'est construit, parce que je travaille quand même parfois, quand j'ai plus de sécurité sociale, je travaille parfois, je fais des remplacements, ou je faisais, parce qu'il y a longtemps que je n'en ai pas fait, des remplacements de veilleurs de nuit dans les musées de la ville de Paris. Et alors je me suis trouvé un jour dans un endroit que j'aime beaucoup, qui est à la jonction de la Marne et de la Seine, qui sont les ateliers, ce qu'on appelle les ateliers d'Ivry, qui est un endroit où viennent échouer toutes les statues. Toutes les statues ébréchées, enfin, ou cassées, ou rejetées aussi, dont les gens ne veulent plus, de la ville de Paris. Et c'est un endroit absolument magique, c'est dans un immense hangar qui est... j'ai passé pas mal de nuits là, et c'est un lieu totalement magique, et en fait c'est cet endroit qui m'a donné le centre de Camp volant. C'est à partir de là où j'ai commencé de travailler, et puis voilà, c'est une promenade comme ça, mais il n'y a pas... C'est un livre qui est peut-être... je pense que c'est un livre qui est très proche d'une prose poétique quand même. Thank you. Le français est une langue, d'abord, qui est une langue très écrite, grâce aux accords. Elle nous permet de faire des choses que l'anglais ne permet pas. D'ailleurs, si vous avez plusieurs sujets et plusieurs adjectifs qui se rapportent à ces sujets, l'accord permet de voir à quel sujet se rapporte tel adjectif. Donc vous pouvez entremêler sujet et adjectif déjà. Alors, ce qui va, bien sûr, si vous lisez le texte, le lecteur aura plus de mal à comprendre la structure. Mais s'il l'a sous les yeux, il peut se repérer. Donc le français est une langue faite pour être lue, plus que écoutée peut-être. C'est une langue aussi qui est une langue de photographie, beaucoup plus que l'anglais. D'ailleurs, les mots français, c'est difficile de les faire s'envoler. À part Genet et Céline, je connais peu d'écrivains qui sont arrivés à faire s'envoler la langue française, parce que le mot en français désigne une seule chose, et le désigne de façon très précise. Alors que l'anglais sera une langue de mouvement. Les verbes anglais sont toujours des verbes de mouvement, c'est toujours en mouvement, et ce qui permet à la littérature anglaise d'exceller dans la description des sentiments du cœur. Par exemple, des sensations. Et l'écrivain qui arrive le mieux, à mes yeux, c'est Virginia Woolf. C'est évident. En français, on va avoir du mal à arriver à dire ce qui n'est pas... Parce qu'à chaque fois, nous, il faut qu'on, nous sommes comme des entomologistes. Il faut que nous... Voilà, le sentiment, il est fixé. Virginia Woolf, elle ne fixe jamais rien. Tout est en nuance. Voilà. Et le français, d'autre part, est une langue dont le ton descend. C'est-à-dire qu'on nous apprend à écrire sujet, verbe, complément. Une fois que vous avez passé ce qui est le nerf de la phrase, qui est souvent le verbe, après, votre attention décroît. Votre attention décroît et souvent, vous ne prêtez plus attention au reste de la phrase, vous feuilletez rapidement. Moi, souvent, le mot... D'abord, je pratique beaucoup les inversions. Et le mot qui va être le nerf de la phrase, que ce soit un verbe ou ça peut être un mot aussi, je le mets à la fin, je ne le donne pas tout de suite. Ce qui fait que le lecteur, je tiens la dragée haute au lecteur un peu, le lecteur est obligé d'avoir une attention soutenue parce qu'il ne trouve pas le mot qui va lui donner la clé de la phrase. Et quand il trouve ce mot, à ce moment-là, il a une vision rétrospective sur la phrase. Par exemple, je peux vous donner peut-être un exemple d'une phrase comme celle-là, qui est un petit peu... c'est tiré d'une nouvelle que j'ai écrite après un voyage en Inde, qui s'appelle « Pluie de mousson ». Une seule phrase. « Dans la même effervescence qu'à Rome au XVIIIe, quand l'Église avait le pouvoir, aux alentours du temple vont et viennent, à demi nus, bras dessus, bras dessous, les cheveux ramassés en chignons, dans la force de l'âge, à peine pubère, vieux de la vieille, maigre, grassouillé, par Kyriel, les prêtres. » Vous avez là le mot principal, le mot qui va vous faire comprendre la phrase, ce sont les prêtres, mais je ne vous le donne pas, je le donne à la fin. Alors votre attention va être forcément très soutenue, ou alors une autre phrase dans « Quand volant », qui n'est pas... Là, c'est un sujet. Là, ça sera un mot qui sera un complément, en fait. Mieux que quiconque, pour l'avoir depuis l'âge tendre, les chevaux bientôt délaissés sillonnés en tous sens, suivant des itinéraires stables plusieurs années, puis qui se modifient au gré d'événements familiaux ou de l'essai d'une nouvelle activité, même si constants les avatars qu'elle subit, Piranglo possède sa banlieue. Le mot-clé, c'est banlieue. Et tous les compléments adjectifs qui se rapportent à banlieue, je les mets avant, et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils définissent.
Mais c'est finalement s'imposer des contraintes.
Oui, enfin, ça, c'est pas non plus une règle. Hein. Ça peut être souvent le verbe. Alors, bien sûr, nous avons beaucoup ça chez Gada, qui était de père italien et de mère allemande. Nous avons ça en latin, nous avons le verbe à la fin parfois. Si vous voulez, la syntaxe française, elle est domestiquée un peu au XVIIe siècle. Mais les chroniques de Froissart ou Joinville ou Comines vous servent un français qui n'est pas du tout domestiqué au niveau de la syntaxe. et qui peut très bien, vous pouvez avoir une phrase qui commence par un verbe, etc. Il n'y a pas de... Et moi, je trouve, pour moi, ce sont des auteurs d'avant-garde.
Wagon Livre touche presque à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je rappelle, avant de nous quitter, le titre du roman de Xavier Bazot, Qu'en volant, aux éditions Champvallon. Je vous donne pour ma part rendez-vous mercredi prochain à partir de 21h, toujours sur les ondes de Radion, pour un numéro de Wagon Livre qui sera en fin de compte un compte-rendu du 21e Festilivre de Moneto, salon du livre donc qui s'est tenu le 31 octobre dernier. C'est mercredi prochain à partir de 21h. Je souhaite aussi signaler une petite information au niveau des libraires. Sachez que le samedi 11 décembre à partir de 15h, l'écrivain mourvendiot Didier Cornaille dédicacera son dernier roman. Et il le dédicacera à la librairie Boileau d'Avallon. Voilà. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée à l'écoute des programmes musicaux de Radion. Et rendez-vous mercredi prochain à partir de 21h. Au revoir à toutes et à tous. Et merci.